Laudetur Jesus Christus.
Le pape a reçu ce matin en audience les participants à l'assemblée plénière de la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales, la ROACO, l'occasion de revenir sur la souffrance de nombreux chrétiens orientaux, de s'inquiéter aussi de la disparition du patrimoine spirituel de l'Orient. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Dans ce contexte, les Libanais, eux, craignent toujours que la guerre entre le Hezbollah et Israël au sud ne s'étende à tout un pays. Crainte partagée par la communauté internationale, nous retrouverons notre correspondant à Beyrouth. À la une de ce journal également, la condamnation par la Cour pénale internationale d'un ancien chef djihadiste au Mali. Et puis nous irons au Sri Lanka, où le pays tente toujours de relever la tête d'une profonde crise économique. Colombo a signé plusieurs accords, notamment avec la Chine, pour restructurer sa dette.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. La barbarie de la guerre fait rage de manière odieuse, la même où vit une grande partie des catholiques orientaux. Un triste panorama qu'a aujourd'hui déploré le pape François. Il a reçu ce matin en audience au Vatican les membres de la ROACO, la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales, à l'issue de leur assemblée plénière, et les a invités à trouver les meilleurs moyens de s'unir et d'alléger la souffrance de ces chrétiens. Dans son discours, Myriam Sandouno, le pape a fait remarquer que ceux qui ont déjà quitté leur patrie courent des risques.
Oui, Olivier, surtout celui de se retrouver également privés de leur identité religieuse. Et au fil des générations, le patrimoine spirituel de l'Orient, richesse incontournable pour l'ensemble de l'Église catholique, se perd, a dit le pape. Les chrétiens d'Orient fuient les conflits à la recherche de meilleures conditions de vie. La plupart vivent en dehors de leur territoire traditionnel, où l'assistance pastorale est souvent médiocre en raison du manque de prêtres et d'installations. Tant d'églises orientales sont écrasées par une lourde croix et sont devenues des églises martyrs. Elle porte en elle les stigmates du Christ, a dit François, citant quelques endroits où elle se trouve, la Terre Sainte, la Syrie, le Liban, tout le Proche-Orient, puis de se tourner vers l'Ukraine, le Caucase et le Tigré. Arrêtez, car la violence n'apportera jamais la paix. Il est urgent de cesser le feu et de dialoguer, a lancé le souverain pontife. Un message adressé à ceux qui alimentent la spirale des conflits et en tirent profit.
Et aux membres de la ROACO, Myriam, François demandait de continuer à apporter leur soutien aux églises locales.
Oui, en effet, Olivier, car ces églises catholiques orientales en ont besoin. François a invité à les aider en ces temps dramatiques à être fermement enracinés dans l'Évangile. Nous ne pouvons rester indifférents, a-t-il déclaré. La Terre Sainte, c'est bien là où tout a commencé, où les apôtres ont reçu le mandat d'aller dans le monde pour annoncer l'Évangile.
Myriam Sandouno, merci beaucoup. Plus d'informations à retrouver en détail sur vaticannews.va. Toujours dans l'actualité du pape, c'est aujourd'hui que son message pour la prochaine journée mondiale de prière pour la création, prévue le 1er septembre, a été dévoilée. François y dénonce les abus de l'homme sur la nature. Il exhorte aussi à poser des limites à l'intelligence artificielle, notamment à la création qui peut être sujette à l'esclavagisme ou à la corruption. Nous y reviendrons en détail dans notre édition à 18h. Le cardinal Pietro Parolin achève, lui, ce jeudi une visite de 5 jours au Liban. Il y a rencontré responsables politiques et religieux. Les tensions croissantes à la frontière entre Liban et Israël, l'escalade verbale entre dirigeants du Hezbollah et ceux de l'État hébreu ces dernières semaines et les mises en garde internationales d'un élargissement du conflit ne cessent d'amplifier l'inquiétude de la population libanaise. À Beyrouth, la correspondance de Paul Ralifé.
Rien dans le contexte actuel ne permet aux Libanais d'espérer le retour au calme à la frontière méridionale du pays, où le Hezbollah et l'armée israélienne s'affrontent depuis le 8 octobre. Après le Koweït, le Canada et la Suisse, c'était au tour de l'Allemagne de demander mercredi à ses ressortissants de quitter le Liban de toute urgence. Sur le plan international, les déclarations n'ont rien de rassurant. Le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, a estimé que la région du Moyen-Orient traverse un moment grave, appelant les belligérants à accepter les propositions de paix. Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies, Martin Griffiths, a pour sa part prévenu qu'un élargissement de la guerre entre le Liban et Israël serait potentiellement apocalyptique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de son côté accusé les pays occidentaux de soutenir une offensive israélienne contre le Hezbollah. Pendant ce temps, sur le terrain, l'escalade se poursuit. L'aviation israélienne a visé mercredi soir pour la première fois la grande ville de Nabatieh dans le sud du Liban, faisant 5 blessés civils. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
L'est de l'Ukraine visée une nouvelle fois par de nombreux bombardements russes dans l'oblast de Donetsk en particulier, une région où Volodymyr Zelensky s'est rendu hier pour soutenir le moral de ses troupes. Le président ukrainien, qui apprend-on, est en visite à Bruxelles ce jeudi où il doit signer un accord de sécurité avec l'Union européenne. Et Bruxelles où s'ouvre aujourd'hui un nouveau sommet des dirigeants des 27 qui durera jusqu'à demain. Une nouvelle journée de manifestation ce jeudi au Kenya malgré le retrait du projet de réforme budgétaire annoncé par le président William Ruto. Le projet de loi prévoyait notamment une TVA de 16% sur le pain. Les protestations depuis se sont multipliées. Ce matin, on a appris que la police avait tiré des lacrymogènes ainsi que des balles de caoutchouc sur plusieurs groupes de manifestants. Au Mali, la Cour pénale internationale a condamné hier un chef de la police islamique djihadiste pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la ville sanctuaire de Tombouctou. Des crimes qui remontent à 2012 et 2013. 2013, Alassane, un Malien de 46 ans, a été notamment reconnu coupable de torture et d'atteinte à la dignité de la personne pour des actes commis dans la ville, alors sous le joug djihadiste. Les précisions de notre correspondant régional Abdulrazak Idrissa.
C'est l'épilogue d'un procès ouvert en 2020. Vêtu d'une tunique jaune et d'une coiffe blanche, l'homme qui est surnommé Alassane est resté impassible pendant la lecture du verdict. Bras croisés, il a suivi le juge Antoine Kessiambé Mindoua, déclarant qu'il a joué un rôle clé dans la terreur qui s'est abattue sur Tombouctou en supervisant des amputations et des flagellations en tant que chef de la police islamique de la ville contrôlée par les combattants islamistes d'Ansardine et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alassane a été reconnu coupable de contribution au crime perpétré par d'autres membres des groupes djihadistes, notamment de mutilation et de persécution. Il a cependant été acquitté des crimes de guerre, de viol, d'esclavage sexuel et d'attaque de biens protégés, ainsi que du crime contre l'humanité de mariage forcé. Vendredi dernier, la Cour a rendu public un mandat d'arrêt contre Iyad Ag Ali, l'un des principaux chefs djihadistes du Sahel, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, commis aussi pour l'essentiel à Tombouctou en 2012 et 2013. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
Un premier débat télévisé de campagne à la Maison-Blanche ce soir aux États-Unis l'opposera le président sortant Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump. Un débat sur CNN qui promet d'être polarisé tout autant que la société américaine. Après une mondialisation mal maîtrisée après les pandémies et les guerres, les pays du Sud connaissent une crise de la dette qui génère misère et détresse. Il y a quelques jours, le pape plaidait publiquement pour une annulation ou au moins pour une restructuration de leur dette. Et c'est chose faite, au moins partiellement, pour le Sri Lanka. Marie Duhamel.
Le Sri Lanka a en effet signé des accords distincts, bien que le même jour, avec différents pays dont il est débiteur. Avec le comité des créanciers publics d'abord, pour restructurer un montant de 5,8 milliards de dollars de dettes. Font partie de ce groupe notamment le Japon et l'Inde, deux pays à qui le Sri Lanka doit 3,7 milliards de dollars. Autre accord signé, sans que l'on sache d'ailleurs s'il y a une équivalence de traitement, l'entente a été conclue avec la Banque d'importation et d'exportation de Chine pour restructurer une dette de 2,2 milliards de dollars sur 4,6 milliards dus à Pékin. En tout, 10 milliards seront ainsi restructurés, si bien sûr le Parlement sri-lankais l'approuve le 2 juillet prochain. Pour le FMI, ces accords sont un pas de plus vers le rétablissement de la viabilité de la dette après deux ans de crise profonde. L'institution avait lancé alors un plan de sauvetage à 2,9 milliards. L'argent est versé depuis par tranche. Le Sri Lanka doit encore restructurer plus de 12 milliards de dollars d'obligations internationales, mais aussi améliorer sa gouvernance, rester sur la voie des réformes, imposer par exemple une taxe foncière ou encore limiter les prêts des banques d'État aux entreprises publiques déficitaires.
Marie Duhamel.
Aide, toi aussi le pape a aidé. Manifeste par un petit geste de grande valeur symbolique ton amour et ta confiance envers le Saint-Père. Soutenons tous ensemble le Saint-Père dans l'annonce de l'Évangile et dans la charité envers ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les familles en difficulté, les populations frappées par la guerre ou qui ont besoin d'assistance humanitaire. Va sur le site obolo.di.sanpietro.va et clique sur « Donner maintenant ».
Voilà, et le lien sur ce site, vous pouvez le retrouver aussi sur notre site vaticannews.va. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas toutes nos informations sur notre site, notre page Facebook et notre compte X. L'information reviendra en direct ce soir à 18h, en direct de Rome bien sûr. Merci pour votre fidélité et je vous souhaite une excellente après-midi.